Dans la vallée de l'Oise, à proximité de Compiègne, nous nous retrouvons dans la ville de Tourotte. Dans le cadre de sa saison, l'espace culturel de Tourotte programme chaque année 3 expositions. Cet automne, c'est Marie Van de Waal qui ouvre le bal avec Les Invisibles. Marie Van de Waal, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes native de l'agglomération crayoise, vous faites des études d'histoire de l'art avant de vous former au métier d'art en art textile, puis à l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles, d'où vous sortez diplômée en 2020. Depuis, vous travaillez en Belgique et en Hauts-de-France, où vous êtes exposée, notamment au FRAC Picardie à Amiens. Aujourd'hui, vous présentez votre travail ici, à Tourotte, sous le titre « Les Invisibles ». Un tel intitulé m'amène nécessairement à cette question « Que voit-on dans l'exposition ?»
En fait, je travaille à partir des plantes, et notamment les plantes sauvages, les plantes spontanées, celles qu'on appelle aussi mauvaises herbes, donc d'où le nom « Les Invisibles ». C'est qu'elles, voilà, parfois, elles sont invisibles à nos yeux, c'est celles qui sont au bord de nos routes, mais dont on ne connaît pas le nom, alors qu'elles peuvent être médicinales, comestibles, elles ont plein de propriétés, à la fois pour nous en tant qu'humains, mais aussi pour la biodiversité. Donc c'est une des invisibles avec lesquelles je travaille, et je travaille aussi avec une autre invisible, que sont les micro-organismes et les bactéries. Donc c'est ce qu'on peut voir au sein de l'exposition, à travers plusieurs travaux qui montrent des plantes sauvages et les cohabitations que peuvent avoir les plantes sauvages avec des micro-organismes.
Alors, plastiquement, ça prend quelle forme précisément ?
Alors, ça prend plusieurs formes. Donc, dans l'exposition, il y a une série photographique qui s'appelle « Les espèces compagnes ». Ici, il y a quelques photos d'une grande série où on peut voir donc une sorte d'herbier de plantes qui ont été mis dans des petites boîtes de pétri. Donc les boîtes de pétri, c'est des petites boîtes transparentes rondes qu'on utilise dans les laboratoires scientifiques avec lesquels j'ai travaillé pour ce projet, où j'ai incorporé ces plantes sauvages et dans une matière qui s'appelle l'agar-agar. Et cette matière, en fait, est un support pour permettre la révélation des micro-organismes. Donc j'ai incorporé ces plantes sauvages et les micro-organismes se sont développés dans la matière tout autour des plantes, ce qui nous crée des choses, des couleurs, du rose, du orange, du jaune, des sortes de pigments comme ça, d'aquarelles autour des plantes. On pourrait penser que c'est la main de l'artiste qui a mis un peu de la peinture, de la couleur autour, mais c'est les micro-organismes qui ont fait le travail. Donc ça, c'est un premier médium, mais on peut le voir aussi sous forme de tableaux, des tableaux qui sont lumineux. Et alors là, en fait, on va voir, donc l'agar-agar, c'est une matière avec laquelle je travaille, qu'on peut appeler une biomatière. Je vais la faire sécher, je vais rajouter des ingrédients à l'intérieur, et ça va faire une sorte de peau, de membrane, une matière souple, parce que j'aime bien les matières souples, je viens du monde des arts textiles. Et c'est une matière qui est transparente, et donc je vais ensuite la travailler, la mettre dans des tambours à broder ou sur des coffrages en bois avec de la lumière pour révéler ce qu'il y a à l'intérieur, les plantes qui sont incorporées et les micro-organismes à l'intérieur. Je ne vais pas rajouter des micro-organismes, l'idée c'est vraiment de révéler et de valoriser, de mettre en lumière les micro-organismes qui sont présents sur les plantes, comme les micro-organismes, bactéries, qui sont aussi présents sur nous. Le but de ce travail, c'est aussi de les questionner, de les visibiliser et de montrer que, en fait, elles sont nécessaires et que c'est la première forme de vie sur Terre. Donc, il y avait cet enjeu-là.
Alors, il y a également des bocaux avec de drôles de substances à l'intérieur. De quoi s'agit-il ?
Ce sont des jus de plantes. Donc, il y a différentes couleurs. On peut voir du jaune, on peut voir du orange, un peu de vers les rouges, vers les plus foncés aussi. Et parfois, il y a aussi des plantes qui sont en macération. Puisque donc, les plantes sauvages, donc, ces mauvaises herbes-là, elles peuvent aussi avoir des propriétés tinctoriales. Je vais les travailler pour récupérer leurs pigments, leurs colorants. Donc, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup aussi dans les plantes. Donc, je vais en faire parfois de la teinture, puisque aussi je fais de la teinture végétale. J'en extrais leur pouvoir colorant et leur jus. Ça, c'est une deuxième partie de mon travail qui m'intéresse aussi, celle de la transformation du végétal, et qui est rendue visible dans l'exposition, puisque quand on rentre dans l'exposition, déjà, il y a une sorte de rideau, un peu un voile comme ça, qui a été teint à la garance, qui est une plante où on va extraire le colorant par la racine qui va nous donner du rouge. J'avais envie un peu d'une entrée comme ça, vaporeuse dans l'exposition, et pour qu'il y ait aussi un seuil entre l'espace de médiathèque et puis l'espace d'exposition. Et puis aussi cette question de la transparence qui est importante dans mon travail. Et puis la teinture avec le textile, elle est aussi sur une autre œuvre qui s'appelle Territoire Refuge. Le tissu est là sous forme de rideau et il vient protéger une image qui est derrière. Donc j'ai une image photosensible à partir de jus de chlorophylle. Et là, en fait, je vais pouvoir faire des traces, des empreintes, des photographies par contact grâce à l'insolation du soleil. Ce qui fait que cette image, donc, qui est derrière mes rideaux, c'est une image qui va rester éphémère, puisque si on continue à la laisser au soleil, elle va disparaître. Donc c'est un travail qui s'appelle Territoire Refuge. C'est à la fois un refuge pour ces images qui vont disparaître, mais aussi ce que je traite à l'intérieur. Il y a un texte qui parle des friches, notamment. Les friches qui sont aussi un territoire refuge pour la biodiversité. Donc il y avait un petit clin d'œil à cet endroit-là.
C'était important pour vous de réactiver un peu cette idée que finalement, une œuvre d'art n'est pas nécessairement quelque chose d'immuable, de patrimonialisé, de figé dans le temps, mais que c'est un peu comme la vie, ça peut tout simplement passer.
Mm-hmm. Oui, je crois que j'avais envie de ça. J'avais besoin de ça aussi, je crois, pour ramener une sorte d'humilité un peu dans le travail de l'artiste, puisqu'il y a ce geste créateur qui est là pour... qui a envie de pérenniser les choses, que ce qu'on fait et ce qu'on crée reste après notre mort. Enfin voilà, y a, évidemment, c'est ancré dans toute l'histoire de l'art. Et je crois que, sensible aux enjeux et aux crises climatiques dans lesquelles on est, je crois que j'avais envie de juste me réapproprier mes relations au vivant. Et par cette réappropriation-là, ça m'oblige à avoir cette forme d'humilité et à me remettre aussi moi-même et mon geste créateur dans une saisonnalité et dans un cycle. Et du coup, je crois que ouais, cette question de l'éphémère, elle est venue assez naturellement. Alors après, évidemment, ça pose plein de questions quand même dans la création et dans le travail, mais j'avais envie de défendre cette position-là, en tout cas.
Sur la question de se réapproprier la relation au vivant, y a-t-il des lectures particulières qui vous ont inspiré à ce sujet ?
Alors, il y en a plein. Il y en a plein lesquels je peux citer. Des philosophes, botanistes, scientifiques, notamment comme Donna Haraway, mais aussi Isabelle Stengers en Belgique. Et aussi en France, on a Baptiste Morisot, qui est un philosophe du vivant et qui a quand même beaucoup parlé, dans son livre notamment, qui s'appelle « Manière d'être vivant », de la question de la crise de la sensibilité liée à nos relations au vivant. Et ça, je le trouve vraiment pertinent. En effet, je pense qu'on a vraiment perdu nos relations, nos rapports, nos savoirs connaissances et savoir-faire autour des plantes. Tout ce savoir-là, il a vraiment été perdu, et ce qui fait que du coup, on ne voit plus. Et je pense que si on ne voit plus et si on ne connaît plus, on n'a pas non plus forcément envie de le protéger. Et donc, ça peut être une des réponses à la crise écologique dans laquelle on se trouve.
Justement, votre usage tinctorial des plantes, est-ce qu'il s'inscrit dans une démarche de recherche historique, d'usage du passé qui auront été oubliés, ou bien dans une démarche plutôt expérimentale et pragmatique ?
Il y a les deux, parce que pour le coup, la teinture, et c'est ça qui m'intéressait par rapport à la démarche plus sur les bactéries, où là, c'est ultra expérimental, mais après, avec des apports aussi scientifiques, même si je fais tout l'inverse de ce que les labos font. Mais sur la teinture, ça te ramène dans une historicité, et ça, c'est super intéressant. En fait, la teinture végétale, avant le 19e siècle, c'était général. Toutes les teintures, toutes les tapisseries, toutes les couleurs étaient faites à partir des plantes. Revenir à ça, je trouve que c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. Notamment, là, cet été, j'étais avec des teinturières et on est revenu sur les pas d'un maître teinturier du 18e siècle pour reproduire les recettes de ce directeur de manufacture royale et pour voir si on pouvait retrouver les mêmes nuances, les mêmes couleurs. Et ça, c'est génial parce que tu apprends d'une technique et d'un savoir-faire qu'on avait qui était absolument incroyable. Donc oui, c'est très riche et passionnant.
Ici, à l'espace culturel de Tourotte, les expositions s'accompagnent d'actions pédagogiques. Un peu plus tôt dans la journée, avant l'enregistrement de cet entretien, avec vous, Marie Van de Waal, avait lieu un atelier avec les élèves d'une école de la ville. J'ai l'impression que pour vous, ce type d'action, ce n'est pas seulement un accompagnement, mais ça fait partie intégrante de la pratique artistique.
Oui, je crois que j'ai vraiment aussi voulu mettre ça en parallèle parce que très vite dans mon travail, je me suis posé la question de la réception. À qui j'allais montrer mes œuvres et pourquoi? Suite à ces réflexions-là, et ben, très vite m'est venue l'envie de les lier à des actions pédagogiques et de sensibilisation. Et c'est comme ça que peu à peu, petit à petit, j'ai créé des petits formats où en fait, les actions pédagogiques commencent par une balade, une itinérance, une marche où on se met en mouvement, où on vient identifier les plantes pour leur donner un nom. Parce que, comme le dit un jardinier très célèbre du nom de Gilles Clément, ce qui n'a pas de nom n'existe pas, et je suis assez convaincue de ça. Et puis après l'identification, on vient cueillir, et après la cueillette, on vient les transformer et faire différentes choses à partir des savoir-faire que je connais. C'est aussi partager la démarche, mais partir de cette cueillette.
Et si j'ai bien compris, la récolte des plantes se fait de manière très local par rapport à votre lieu de travail. Si vous vous trouvez en résidence à l'autre bout de la France, par exemple, ça donnera des œuvres qui sont différentes?
Oui, complètement. Alors, mon territoire, il est vraiment basé dans les Hauts-de-France et en Belgique. Donc, de manière générale, on est quand même pas mal sur les mêmes plantes, même s'il y a évidemment des différences en fonction des territoires, c'est sûr. Et puis même en fonction aussi si c'est une friche, si c'est un bord de champ, si c'est un bord de route, enfin, c'est pas exactement les mêmes plantes. Après, c'est clair que si je vais dans la Méditerranée, j'ai fait il y a 2 ans un atelier dans un festival en Italie, et là, j'avais pas du tout les mêmes plantes. Donc j'ai dû bien travailler avant de donner l'atelier parce qu'il y en avait certaines que je connaissais pas. Donc oui, bien sûr, ça change. Moi, ce qui m'intéresse aussi, pourquoi les plantes sauvages, c'est réobserver ce qui nous entoure au quotidien, réapprendre à voir. Et en même temps, ça parle aussi du territoire sur lequel on habite. Et ça m'intéresse aussi, quoi. Comment, en fait, la connaissance nous permet d'appartenir à un territoire et à une terre aussi. Donc oui, la question du local, elle est importante là-dessus.
Donc une pratique qui permet de retisser des liens avec le monde. C'est une sorte de remède à l'époque, faire société à travers l'expérience de l'art comme une expérience du bien commun.
Oui, je crois que toute tentative est bonne à prendre. Et c'est aussi pour ça que je pense que je travaille avec les plantes, enfin, qu'elles m'ont intéressée. Pour moi, c'est un commun qu'on a et elle nous relie. On a les mêmes, en fait, autour de nous. On a les mêmes dans notre jardin, on a les mêmes au bord de route. Les plantes sauvages et les plantes spontanées, même qu'on ait un jardin, qu'on n'ait pas de jardin, en fait, elles sont partout autour de nous, dans l'espace public. Et du coup, c'était une vraie manière pour moi de parler de quelque chose qu'on a à défendre de manière générale. Donc, il y a un côté aussi un peu politique. Mais j'aimais bien, en fait, aussi ce double enjeu, quoi. Ce double enjeu-là. Ouais.
L'exposition Les Invisibles de Marie Van de Waal est ouverte jusqu'au 16 novembre à l'espace culturel de Tourotte avec un apéro-rencontre en présence de l'artiste vendredi 15 novembre à 18h30. Un sujet réalisé par Léo Magnin pour Radio Graphite.
Cette émission est proposée dans le cadre des productions coopératives des radios associatives du nord de la France. Une coopération qui a reçu le soutien de la région Hauts-de-France.